Et bienvenue. Je doute qu'il y a beaucoup ici qui se souviennent que nous étions en train, lorsque je prêchais, en tout cas, de parcourir une des épîtres de Paul. Est-ce que vous vous souvenez laquelle? J'ai regardé hier et j'ai vu que la dernière fois que nous y étions était en novembre de 2011. Donc, même moi, j'ai un peu oublié ce que nous avons dit. Mais c'était la lettre de Paul aux Philippiens. Très bien, ça m'encourage. Je vous invite à la prendre et de trouver cette épître que nous voulons reprendre aujourd'hui. Il y a une histoire que j'aime beaucoup de la vie de Jean Calvin. Je ne présume pas être à son niveau, mais vous savez peut-être que lui prêchait un texte après l'autre, il parcourait les textes, les livres de la Bible. Et à cause des troubles dans la ville, à un moment, il était chassé de Genève. Il a dû fuir la ville. Il s'est installé à Strasbourg. Et pendant 3 ans, il a eu un ministère parmi les réfugiés de la France qui étaient à Strasbourg. Il ne faisait pas partie du royaume de la France à l'époque. Et puis, à un moment donné, les choses ont changé dans la vie de Genève et ils ont rappelé Calvin. Calvin a dit que c'était la dernière chose qu'il voulait faire. Il ne voulait pas retourner à Genève. Il avait souffert beaucoup dans la ville. Mais Dieu l'a appelé et il s'est soumis à l'appel de Dieu. Il est rentré à Genève. Et le premier dimanche de son retour, il s'est levé et il a pris le verset suivant. Qu'il avait, d'où il était il y a 3 ans auparavant. C'est-à-dire, il a repris au même endroit, il a continué à prêcher comme avant, fidèlement la parole de Dieu. Donc, je fais un peu la même chose. Je reviens à l'endroit que nous avons arrêté avant notre séjour à Paris. Vous vous rappelez que peut-être que la plus grande section, partie de ce livre, si nous voulons la diviser en sections, commence au verset 27 du chapitre 1, et va jusqu'au verset 18 du chapitre 2. Et toute cette section, donc 1, 27 à 2, 18, concerne dans son ensemble une vie qui est digne de l'Évangile. En fait, on a donné, je crois, comme titre à cette partie de l'Épître, « Vivre une vie digne » de l'Évangile. Nous avons vu qu'il y a 3 grands volets ou 3 aspects d'une telle vie. Et le premier volet d'une telle vie a trait à la conduite de l'Église devant le monde extérieur. Il dit dans le verset 27, par exemple, regardez le verset 27 du chapitre 1, « Demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. » Il parle ici de leur conduite devant le monde, devant les adversaires extérieurs. Et puis, le deuxième volet concerne les affaires internes de l'Église. La préoccupation de Paul est ici à l'unité, comme dans plusieurs de ses épîtres. Et indispensable à l'unité est un esprit humble. Regardez par exemple le chapitre 2 et verset 3, où il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Alors, est-ce que nous avons déjà pratiqué cela ce matin ? Parmi ceux que nous avons vus. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, ce désir de voir inculquer au sein de chacun des membres de l'Église un esprit humble est ce qui a inspiré l'apôtre Paul de leur partager un exemple d'un esprit humble. Et cet exemple est des fois surprenant pour certains. Parce que l'exemple suprême de l'humilité que Paul trouve est nul autre que qui? que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et donc, il dit, verset 5, « Ayons vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il parle ici de l'unité. Et puis, le troisième aspect ou volet commence au verset 12 et adresse les membres de l'Église en tant qu'individus, maintenant en tant que chacun, chacune, membre de l'Église. Regardez-le, c'est au verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore comme maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et ainsi je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Alors, cette troisième section parle de travailler. Regardez le verset 12, hein, c'est le mot qu'il utilise. Travailler ce grand salut que nous avons en tant que chrétiens. Ce troisième mouvement au sein de cette section parle donc du progrès du chrétien. Du progrès du chrétien, le voyage du pèlerin vers la ville céleste, la sanctification. Et Paul commence sa discussion sur le progrès chrétien par un appel à travailler à leur sanctification. Voyez ça, verset 12, travailler à votre salut avec crainte et tremblement, et puis il enchaîne avec une promesse, verset 13, que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, sans la promesse, il n'y a pas d'espoir, mais avec cette promesse, il y a beaucoup d'espoir. Et puis, si vous suivez le texte, verset 14, vient cette interdiction sans équivoque, sans ambiguïté, incontestable, indéniable. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation ou ni dispute. Alors, qui ici veut témoigner que vous avez pu, cette semaine, vous avez pu faire toutes choses sans murmure, ni dispute. Il y a quelqu'un ici, je vous laisse ma place, volontairement. Nous avons découvert en novembre que les murmures et les disputes sont incompatibles avec notre croissance personnelle en sanctification. Eh bien, nous l'avons regardé un peu du côté personnel, que si nous voulons grandir, si nous voulons croître, si nous voulons travailler à notre salut, nous devons être préoccupés par cette attitude humaine de râler, de murmurer, de disputer face aux problèmes de la vie. Mais vous n'avez peut-être pas songé à ceci, c'est que vos murmures, vos chicaneries, vos disputes, peu importe comment vous les communiquez, il y a plusieurs manières, hein, par nos paroles, par les mots que nous disons, peut-être par le ton de la voix, de la façon que nous roulons des yeux, hein, même par le fait de traînasser partout, l'attitude qu'on démontre, les enfants, ils savent démontrer cela envers leurs parents, les étudiants envers leurs profs, mais lorsque vous communiquiez, pour ainsi dire, cet esprit de murmures et de disputes et d'hésitations, et que vous démontrez cette attitude devant les autres, cela crée des effets profonds et nuisibles sur les autres. Donc, c'est un effet, si on enchaîne avec le verset 12 et 13, sur moi-même et ma sanctification, le fait de murmurer et de disputer, c'est un effet sur ma propre croissance dans le Seigneur. Mais après, il va enchaîner avec un autre effet, c'est un effet après sur les autres qui sont autour de moi. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Il y a en fait deux raisons mentionnées dans notre texte pour l'interdiction du verset 14 contre les murmures et les disputes. Donc je veux considérer ensemble ces deux raisons. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi ne pas murmurer. regardez-les avec moi. Chacune de ces raisons concerne une catégorie de personnes. Il y a deux grandes catégories de personnes. Regardez le verset 14 encore. Faites toutes choses sans murmure, ni dispute ou hésitation, afin que, voyez, afin que, verset 15, et je suggère même de souligner afin que, de mettre peut-être le numéro 1, parce qu'il y a deux raisons ici, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération, et ce mot génération parle de notre ère culturelle, la génération dans laquelle nous vivons, le monde autour de nous, d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et j'ai dit qu'il y a deux catégories de personnes, alors dites-moi, pour quelle catégorie de personnes, ou par quelle catégorie de personnes est-il préoccupé ici? Il a à cœur ici la génération perverse et corrompue autour de nous, n'est-ce pas? Mais regarde, marquez la deuxième catégorie de personnes, verset 16 au milieu. Et je vous suggère de mettre un 2 peut-être. L'idée c'est, et afin que je puisse me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Donc, pourquoi ne pas se plaindre pendant que vous travaillez à votre sanctification? Eh bien, d'abord, par amour pour le monde perdu autour de nous. Et puis, deuxièmement, par amour pour vos pasteurs, les bergers, c'est-à-dire les leaders spirituels. Le premier est développé beaucoup plus que le deuxième. Et nous allons aussi le développer plus que le deuxième. Mais d'abord, pourquoi ne pas murmurer, on va dire, par amour pour le monde perdu autour de vous, autour de nous? Et je vous invite de regarder encore ces versets pour qu'ils soient bien imprégnés dans nos pensées. Verset 14, faites toutes choses cette semaine sans murmure ni hésitation. Pourquoi? Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. C'est grand ça, hein? J'espère que nous sommes impressionnés par le fait que cette question des murmures et disputes contre la main de Dieu dans nos vies est une grosse affaire. Non seulement a-t-elle des effets importants sur ma propre marche devant Dieu, mais elle a un impact profond sur mon témoignage devant les autres. Et le message ici est assez simple, je crois. Je suis appelé par Dieu à avoir une influence sur ma génération. Et je peux soit nuire, soit fortifier cette influence par mon attitude envers la main de Dieu qui contrôle ma vie. Il y a plusieurs choses vers lesquelles je veux tirer votre attention. D'abord, la description du monde qui nous entoure. Dans le verset 15. Je me rappelle une fois, lors d'un examen, dans un cours de l'histoire de l'Église chrétienne, pour l'examen, une des questions, on nous a posé cette question, voilà. En vous limitant à 5 adjectifs simples, décrivez la réforme française. Donc, il fallait décrire la réforme française avec 5 adjectifs simples. Il fallait trouver les adjectifs que le professeur voulait aussi. Alors, si je vous demandais de prendre une feuille de papier et en vous limitant à 5 adjectifs simples pour décrire non pas la réforme française, mais la génération, votre génération, hein, si vous êtes de la génération X, Y ou Z, hein. Alors que mettriez-vous? Quels sont les adjectifs que vous choisirez pour décrire votre génération? Réfléchissez peut-être. Quels sont les premiers adjectifs qui viennent à votre esprit? Et puis avec cela en tête, regardez l'évaluation infaillible des Saintes Écritures qui est révélée par seulement deux adjectifs. Et il nous dit que c'est une génération comment? Perverse et corrompue. C'est des mots forts. Ce mot perverse, c'est le mot grec scolios, d'où vient des termes médicaux tels que la scoliose, qui se réfère à la déviation latérale de la colonne vertébrale, quelque chose qui va mal, ce n'est plus droit. Il y a un scolios. Proverbe 2 nous dit, Proverbe 2, verset 13 nous dit ceci. Ça parle de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés, dans la traduction grecque, c'est notre mot, hein, des sentiers détournés, et qui prennent des routes tortueuses. Donc pensez à une génération détournée et tortueuse. Alors le mot corrompu, pour revenir au texte, le deuxième adjectif là, c'est presque un synonyme. Ça désigne l'état d'être tordu ou déformé. Jésus avait parlé de sa génération comme une race ou une génération, incrédule et perverse. C'est ce même mot. Matthieu 17:17. Et donc la même chose est vraie à Philippe. Et on doit dire que la même chose est vraie à Bordeaux. Et en France. Alors, avant de continuer, permettez-moi de vous demander encore une fois quelle est votre opinion de la génération dans laquelle vous vous trouvez. On va prendre un exemple. Lorsque vous regardez ce qu'on appelle les sitcoms, les séries télé, qui sont censées refléter la vie quotidienne de notre génération. Et alors, comment réagissez-vous? Est-ce que vous vous trouvez en train de sourire, de rire avec tous les autres qui rient en se cheminant vers l'enfer, en fait? Ou êtes-vous révolté? Avez-vous jamais dit, presque involontairement, quelle génération perverse et corrompue? Est-ce que vous sentez cela dans votre cœur, dans votre esprit? C'est un phénomène perpétuel que chaque nouvelle génération rejette les valeurs et les mœurs de la génération précédente. En fait, écoutez le constat de deux journalistes de l'Express dans un article du 14 mars 2012, donc il y a 2 mois de ça, intitulé « Les Y » expliquer aux parents, c'est la génération Y. Apparemment, le Y, c'est la forme du système à oreillette porté pour écouter son baladeur. Donc, c'est la génération Y. Et ils disent dans cet article de l'Express, la génération des 20 à 30 ans entre en conflit avec ses aînés qui ont entre 40 et 60 ans. Un conflit qui ne dit pas son nom, mais derrière les sourires, l'incompréhension règne. Travail, couple, consommation, les jeunes ont ringardisé les codes et les modes de la vie des 40 à 60 ans. Et puis il dit cela de cette génération. Aventurieux et pragmatique, ces enfants du chômage et du divorce ont intégré la notion du CDD, explique Olivier Rollo. Au travail, bien sûr, mais aussi en amour, au quotidien ou dans leur rapport à l'argent. La prime est à l'instant. Côté couple, c'est la grande incompréhension. Vivre ensemble, bof. Les enfants, excusez-moi, je lis ici, enfer et damnation. Liliane, une maman, confirme. Ma fille de 24 ans me répète que c'est trop de contraintes. Et les deux journalistes terminent en disant, et je cite encore, « Avec leur humeur caustique et leur intransigeance, les Y ont désingué les codes de leurs aînés. mais jusqu'à quand? Et puis, après avoir décrit la génération qui se forme actuellement et qui va bientôt suivre ces jeunes adultes de 20 à 30 ans, ils disent, adultes, préparez-vous à souffrir. C'est comme cela qu'ils terminent. C'est-à-dire, vous allez aussi souffrir un jour parce que il y a vos enfants qui vont vous suivre. C'est naturel. Que le monde va naturellement du mal en pis. Depuis qu'une quinzaine de jours, nous avons pour la première fois dans l'histoire du monde des présidents de la France et des États-Unis qui se sont prononcés ouvertement pour le mariage homosexuel. C'est quand même, je crois, quelque chose d'important et signifiant dans l'histoire du monde. Et ce n'est pas parce qu'ils ont forcément des convictions pour et que leurs prédécesseurs avaient forcément des convictions contre, mais c'est tout simplement parce que pour les politiciens d'aujourd'hui, la défense du mariage homosexuel devient de moins en moins un risque et de plus en plus un atout parmi la génération actuelle. Et je me demande si nous apprécions vraiment l'importance même de cela sur notre génération. Nous, on n'y pense peut-être pas trop, que c'est pas quelque chose de très important, de très grand, mais la presse, oui, elle pense que c'est quelque chose de très important et a marqué d'une pierre. Le quotidien, par exemple, Libération, salue la position des deux hommes politiques et elle dit, je cite, « Le mariage reste un code social majeur et sa législation est synonyme d'acceptation de l'homosexualité par une société. En France, comme aux États-Unis, être gay sera plus facile pour les plus jeunes. » Vous voyez ça? Ce sera maintenant plus facile pour les plus jeunes. Le président, qu'il soit américain ou français, peut ainsi faire avancer l'histoire et changer la société. Donc, une chose est certaine, la société change. Je suis pas sûr qu'elle avance. Mais dans 5 ans, la situation économique sera peut-être mieux, hein, nous l'espérons tous. Mais je suis presque certain qu'elle sera encore plus perverse et corrompue aux yeux de Dieu. Et c'est la vue de Dieu qui doit nous marquer. Et nous devons passer à autre chose, mais je veux simplement vous rappeler que la Bible nous donne une bonne évaluation de cette génération. Il faut l'accepter. Et tous les programmes de radio, la télévision, tous les films, tous les livres, toute la musique qui exalte, qui prône les valeurs de cette génération. L'évaluation de la Bible, c'est qu'elle est perverse et corrompue. Elle est tordue, elle est placée sous le jugement de Dieu. Et vous n'avez pas le droit de rester indifférent face à cette évaluation. Vous avez soit l'accepter, soit le rejeter, mais cela doit créer en vous une certaine méfiance de tout ce que cette génération exalte et glorifie. Par exemple, s'il y a quelqu'un que je sais, je connais, par son histoire et par sa vie, qu'il est complètement pervers et corrompu, alors s'il commence à préconiser un principe ou un style quelconque, je dois naturellement me méfier. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais en soi, mais le fardeau de la preuve repose sur ceux qui veulent suivre la voie tracée par la génération perverse et corrompue, pas sur ceux qui veulent l'éviter, en fait. Il faut toujours garder cela en tête. Les choses ne sont pas anodines ou anodines. Et on dit cela à propos de cette génération. Remarquez, d'autre part, notre position voulue par Dieu face à cette génération. Alors dites-moi, quels sont les mots qui révèlent notre position face à cette génération perverse et corrompue? Où est-ce que nous nous trouvons dans cette génération? Qu'est-ce qu'il dit dans verset 15? Parmi laquelle? Vous voyez cela? La Bible du Sumer dit au sein d'une humanité corrompue et perverse. Vous êtes au sein, vous êtes parmi cette génération. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que nous allions en tant qu'église acheter un chalet en Suisse construire un mur autour de l'enceinte pour vivre séparément du monde. Dieu veut que nous soyons entourés par ses collègues, comme décrit ici, par ses camarades de classe, par ses étudiants universitaires. Il veut que nous tendions la main à ce monde pervers et corrompu qui nous entoure. Et donc, nous vivons au sein de cette génération, mais nous sommes pas de cette génération. Et c'est là qu'en tant que chrétiens, nous devons être très vigilants pour montrer beaucoup de discernement. C'est des choses à laquelle il faut réfléchir, il faut prier, il faut penser, parce que c'est une chose de vivre au milieu d'une génération perverse et corrompue, mais c'est tout autre chose de permettre à la génération de venir et habiter en dedans de nous, de nous imbiber de tout ce qu'elle nous offre. Jésus dit, Jean 17, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Ce n'est pas ça la prière de Dieu. Mais quelle est sa prière? Mais de les préserver du mal. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a du mal. C'est pourquoi ces deux requêtes vont ensemble. Et Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte, et dans son message, il a crié ceci, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Oui, c'est ça la vue de la Bible. « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Il faut se sauver. C'est une chose d'aller chaque jour dans le monde et de former vos enfants, de vivre dans le monde tout en restant fort pour le Seigneur. Mais c'est tout autre chose de permettre au monde et à cette génération perverse d'entrer dans nos salons ou dans notre chambre. Et il faut savoir qu'aucun moyen de communication, qu'il s'agisse de la télé, de la radio, des films, de la musique ou de la littérature, n'est neutre. Écoutez ce que disent l'Écriture, Éphésiens 4, 29. « Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole, c'est le mot logos, mauvaise, corrompue, c'est l'idée encore. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Le mot logos, en fait, dans la Bible peut avoir un sens très large. Voici la traduction du lexique pour ce mot logos. Une communication par laquelle l'esprit trouve expression. C'est une communication par laquelle l'esprit trouve expression. Et même le monde vous dira que la communication n'est pas limitée aux paroles. Si la communication était limitée aux paroles, vous ne verrez pas en ville des photos. Hein? Quand on fait la pub, il n'y aurait que des mots. Mais il n'y a pas que des mots. En fait, la plus grande partie est prise par une photo ou des photos et les paroles qui l'accompagnent. Un tableau peint par un artiste communique, ainsi que tous les arts visuels. La musique sans paroles communique, ainsi que tous les arts auditifs. Une émission à la télé de 30 minutes ne peut être neutre parce qu'elle est une communication. Et vous voyez, il y a deux options ici. Il y a une communication mauvaise ou il y a une communication qui sert à l'édification. Il n'y a pas une troisième option d'une communication qui est complètement neutre sur le plan moral. Toute communication se penche, bon, bien sûr il y a des niveaux, mais se penche soit dans une direction, soit dans une autre. Mais aucune communication est parfaitement neutre. Et Jésus dit, sauvez-vous, Pierre dit en prêchant, sauvez-vous de cette génération perverse qui nous est communiquée dans tant de moyens aujourd'hui. On va considérer troisièmement donc l'influence que nous devons avoir dans ce monde. Nous avons vu l'influence que le monde peut avoir sur nous. Mais en fait, ici, il pense de l'influence que nous devons avoir sur le monde. C'est triste que souvent le chrétien, il part dans la journée, il revient beaucoup plus influencé que avoir influencé les autres. Et il y a deux ingrédients importants à cette influence. Si vous regardez, vous voyez que nous devons d'abord briller et nous devons porter. Ces deux idées-là. Nous devons, il dit, nous devons briller. Voyez ça, le verset 15, parmi laquelle vous brillez. Briller, c'est l'idée d'apparaître devant le monde. C'est le même mot qui est utilisé de l'ange qui est apparu à Marie et puis à Joseph. Apparaître comme devant le monde. C'est-à-dire, on est là. Comme des flambeaux. C'est-à-dire, toute chose qui donne de la lumière. On l'utilisait même pour des étoiles du ciel qui dirigeaient ceux qui naviguaient sur les mers. Et c'est Foster le mot, c'est des flambeaux, ou même comme des étoiles. Donc imaginez ceci, vous êtes au milieu d'une génération perverse et corrompue, et vous êtes censé briller comme des étoiles illuminant le ciel. Voilà, c'est vous l'étoile qui illumine le ciel pour diriger les personnes de cette génération. Et de même que les étoiles brillent, pas à cause de quelque chose qu'elles font, mais qui est en dehors d'elles, mais à cause de ce qu'elles sont. Les étoiles ne possèdent pas d'interrupteur, elles ne peuvent pas éteindre la lumière et puis la remettre. Et ben nous aussi, nous brillons en fonction de ce que nous sommes ici. Voici un peu ce que j'essaie de dire. Vous brillez dans ce monde, non à cause d'une liste d'activités spécifiques. On doit faire ceci, ceci, ceci pour briller. Mais, selon ce passage, grâce au caractère que vous avez, grâce à ce que vous êtes, inhérent en dedans de vous, pas à cause de ce que vous faites, mais c'est ce que vous êtes qui vous fait briller. Et c'est pourquoi, si vous reculez un peu dans le texte, il énumère 3 traits de caractère nécessaires pour nous aider à briller comme nous devons briller. Regardez à nouveau le texte, je reprends dans le verset 14 pour le montrer. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez, et là on peut les énumérer aussi, d'abord irréprochables, et puis purs, et puis troisièmement des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous voyez, ces 3 choses sont nécessaires pour pouvoir briller dans le monde. Faites toutes choses sans murmure et dispute afin de pouvoir briller. Quels sont ces traits de caractère qui sont nécessaires? D'abord, vous devez être, et nous devons être, irréprochables. Irréprochables. Celui qui est libre de toute accusation ou de blâme venant de Dieu ou des êtres humains. On ne peut pas le blâmer, on ne peut pas l'accuser. S'il a eu des fautes dans son passé, il les a réglées. Pensez aux politiciens à Babylone, Belshazzar, mieux connu par son nom hébreu qui est quoi? Daniel. Et il était au milieu d'une génération perverse et corrompue. Écoutez le témoignage de ses ennemis, qui ne cherchaient que sa mort. Hein. Cela vient de Daniel 6, verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel. Ils sont frustrés. Nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Voilà. Bon. Si ils trouvent tort dans notre relation avec Dieu, c'est une bonne chose même. Mais en dehors de cela, ils ne trouvaient rien contre ce Daniel. Il était irréprochable, même devant ses ennemis. Nous brillons tous, hein, pour le meilleur ou pour le pire, d'un degré ou un autre. Mais faites toutes choses sans murmure et dispute, dit l'apôtre, de sorte que votre brillement soit irréprochable. J'ai lu dans le Parisien, quand j'étais à Paris, parler des méthodes que les Français contournaient le fisc, et il disait que tricher sur ses impôts était le sport national des Français. Ça, c'est le Parisien qui l'a dit. Alors, s'il y a quelqu'un ici que non, vous allez dire non, je vais pas tricher. Ça va vous faire briller parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Vous dites, non, non, je dois être honnête. Et tout d'un coup, vous brillez et vous marquez votre différence avec les autres. Faites toutes choses sans murmure ici et dispute, dit l'apôtre, de sorte que votre brillement soit irréprochable. Il y a des taches sur nous quand nous murmurons comme font tous les autres Français. Hein, et je parle des Français puisque je suis en France, mais c'est la maladie des humains dans n'importe quel pays. Alors avez-vous triché un employeur? Avez-vous menti lors d'un examen? Avez-vous triché lors d'un examen? Avez-vous volé quelque chose? Avez-vous fait du tort à un ami? Est-ce qu'on peut vous blâmer? Ou est-ce que vous avez vraiment corrigé toutes ces fautes? Soyez irréprochable. Et puis, dit deuxièmement, soyez pur. Soyez pur. Ce mot est utilisé 3 fois dans la Bible. Celle-ci, c'est une des fois, l'occurrence la plus connue, je crois, c'est celle de Matthieu, où il dit en chapitre 10, verset 16, « Soyez donc prudents comme des serpents et simples, c'est notre mot, ou innocents, ou purs, comme les colombes. » Mais peut-être l'occurrence la plus utile pour nous, c'est la 3e occurrence qui se trouve en Romains 16, verset 19, et où l'apôtre dit, je vais juste simplement vous le lire, hein, « Je désire que vous soyez sages, en ce qui concerne le bien, et pur, notre mot, et pur, je veux que vous soyez pur, en ce qui concerne le mal. » Donc l'idée ici, c'est pur, pas mélangé avec d'autres substances. C'était utilisé à l'époque du vin qui était sans eau, ou de l'or pur, ou de cuivre pur, ou tout autre métal qui était sans impureté. Et il veut cela de nous, sans impureté. Vous soyez purs. Il voulait que les Romains puissent être purs par rapport à tout mal. C'est-à-dire exempt de toute contamination. Alors, qu'est-ce qui arrive quand vous mélangez le soleil qui brille et puis les nuages? Vous obtenez la brume, n'est-ce pas? Briller, dit la Bible ici, sans aucun mélange de polluants, que vous puissiez briller clair et pur. C'est pour ça qu'il faut enlever les choses de la vie, pour pouvoir être pur. Enfin, il dit verset 15, que vous soyez irréprochable, regardez-le, pur, et puis troisièmement, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Irrépréhensibles. C'est-à-dire que l'on ne peut reprendre ou blâmer. Ça signifie sans tache, ni ride, au-dessus de tout reproche, sans faute. Encore, c'est des synonymes. Hein. La Bible de Semeur le traduit sans tache. Ce fut ce terme qu'on utilisait pour des brebis ou des agneaux, qui étaient dignes d'être sacrifiés. La brebis était irréprochable. Elle était irrépréhensible. Et en fait, Pierre l'utilise, 1 Pierre 1,19, quand il parle du sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et c'est ce mot. Il est un agneau sans défaut et sans tache. Et il nous dit, vous soyez comme ça, sans tache sur la vie. En fait, je vous demande de trouver Éphésiens chapitre 1, s'il vous plaît, c'est pas loin. Galates, Éphésiens, Philippiens, donc si vous êtes en Philippiens, on recule un peu, la lettre qui vient juste avant, le premier chapitre, nous allons regarder encore ce mot. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque Dieu, dans l'éternité passée, vous a choisi pour être sauvé, il vous a destiné ou il vous a prédestiné d'être cette chose, ici là, cette même chose. C'est très beau. Regardez Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et quoi? Ceci dont parle Paul en Philippiens chapitre 2. Irrépréhensible devant lui. Alors on se dit, mais est-ce que ça va vraiment arriver que nous serons un jour irrépréhensibles, sans tache, sans aucune tache? Et la réponse est oui, vous pouvez être assuré que c'est exactement ce qui va se passer parce que Christ a donné sa vie dans ce but. Regardez chapitre 5 d'Éphésiens. Vous allez voir que Christ est mort pour cela. Éphésiens chapitre 5 et verset 25, un petit rappel au mari en passant. Ça fait toujours du bien. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais regardez ce que Christ a fait pour l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, Éphésiens 5, maintenant verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître, c'est-à-dire devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et, notre mot ici, irrépréhensible. C'est pour cela que Christ est mort. Alors Dieu va s'assurer que cela se produise. Hein. Vous serez, si vous êtes en Christ, vous serez un jour irrépréhensible. Mais il vous a laissé dans ce monde pendant un certain temps pour briller comme des étoiles dans le ciel. Et il faut briller correctement. Et pour briller ainsi, vous devez être devant le monde sans tache et irrépréhensible. Alors on se dit, mais comment est-ce que ça va se produire? Qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour m'aider à briller d'une façon irréprochable, pure et irrépréhensible? Eh bien, c'est plus facile et plus dur qu'on aurait cru, hein. Qu'est-ce que notre texte nous dit est nécessaire afin que cela se produise? C'est quoi? Il faut arrêter de vous plaindre. Stop, fini. Regardez le verset 14, et vous le verrez. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez ces choses. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Il ne faut pas faire ces choses. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas disputer. On a vu l'autre fois, ça fait longtemps, mais cette hésitation parle en fait des jeux que nous faisons dans notre propre esprit, où nous luttons, nous disputons les événements et les circonstances que Dieu apporte dans notre vie. Il faut que ça s'arrête. Donc le premier ingrédient important afin d'influencer le monde, c'est que nous devons briller. Nous devons briller. Que vos œuvres, Jésus dit, luisent devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Voilà, c'est la même chose ici. Et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faut faire davantage? On ne peut pas rester là. On ne peut pas simplement luire et briller. Nous devons briller, mais nous devons, deuxièmement, verset 16, quoi? Porter. Vous voyez ça? Nous devons briller, mais nous devons leur porter quelque chose. Porter quoi? Portant la parole de vie. Porter dans le sens ici d'offrir, de leur donner une parole. Là entre en jeu une communication. C'est-à-dire, ce n'est pas assez d'être un bon témoignage pour qu'ils puissent me voir. C'est important, c'est nécessaire. On vient de passer beaucoup de temps à dire que c'est absolument nécessaire. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Après, il faut leur porter quelque chose. Il faut leur porter une parole. Il faut leur porter une communication. Et quelle est cette parole que nous apportons? C'est une parole de quoi? Une parole de vie. N'est-ce pas un beau titre pour la Bible? C'est une parole de vie. Parole de vie signifie non seulement que ce message, cette parole est une proclamation de la vie, c'est-à-dire une parole qui vous proclame la vie, mais elle crée ou elle donne la vie. La parole est la source de la vie. C'est une parole de vie, comme la source de vie, une source d'eau, la source qui nous donne l'eau, une parole de vie, la parole qui nous donne la vie. Alors, vous pouvez acheter les meilleurs livres de développement personnel à la librairie, mais vous n'avez pas trouvé un livre qui va vous donner la vie. Et voici un livre qui nous donne la vie. Ces paroles sont la vie. Jésus a dit, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et lorsque ce jour-là, Jean 6, beaucoup ont abandonné Jésus, ils sont partis parce que les paroles qu'il disait étaient trop dures pour eux. Jésus s'est tourné vers les douze et il a dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre lui répondit ceci, écoutez ces paroles. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Oui, Pierre a compris que Jésus avait les paroles qui donnent la vie éternelle. Donc si vous êtes à la recherche de la vie éternelle, vous trouverez le chemin dans ces pages de ce livre, la Bible. Ces paroles donnent la vie parce qu'elles révèlent le Christ. Et celui qui a le Fils, dit la Bible, a la quoi? Il a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Et donc, chrétien, il faut le tendre, il faut le porter, il faut le partager. Il ne suffit pas que vous soyez irréprochable, il doit savoir que ce qui vous rend irréprochable. Il ne faut pas avoir honte de cette parole, car elle est la puissance de Dieu. Elle est une parole de vie. Et donc oui, dit l'Esprit à travers l'apôtre, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Ça a des effets nuisibles sur votre évangélisation, si vous voulez. Pourquoi? Pourquoi dois-je m'arrêter de me plaindre et de disputer à l'intérieur avec d'autres? Par amour pour ce monde perdu autour de moi. Ce monde pervers et corrompu. Mais Dieu nous dit, je vous ai mis au milieu de ce monde pour influencer. Cela exige que vous brilliez vous-même et que vous offrez cette parole de vie. Donc, la première catégorie de personnes pour laquelle Paul est préoccupé, et la génération Y, ou n'importe, hein, autour de vous. Mais regardez la deuxième raison de cesser de se plaindre. Une motivation, en effet, surprenante. Regardez le verset 16. Et ainsi, on pourrait ajouter pour mieux comprendre le mot ainsi, et ainsi je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. On peut le dire ainsi, par amour, pour vos pasteurs, il citait, c'était l'apôtre Paul, mais pour l'appliquer à nos jours, à vos pasteurs et les responsables spirituels, afin que je puisse avoir une raison de me réjouir au jour de Christ. Paul anticipe en tant que dirigeant de l'Église le jour où il sera en mesure de regarder en arrière et de se réjouir de tout ce que Dieu a fait dans la vie de ceux qu'il aime. Et de ce qu'il aimait sur terre. C'est presque exactement ce qu'il a dit aux Thessaloniciens. Je vais vous lire ces versets 1 Thessaloniciens 2, 19 et 20. Qui est en effet notre espérance, notre joie ou notre couronne de gloire? Et puis il regarde à l'église et dit, n'est-ce pas vous devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Voyez, Paul ne voulait pas aller au ciel tout seul. Il voulait qu'ils soient tous là, et il voulait pouvoir voir ces gens qu'il aimait être récompensés eux-mêmes. Si on aime quelqu'un, on veut partager ce qu'on aime. Mais Paul voulait partager avec eux le ciel. Parce que l'œuvre gracieuse de Dieu à travers la prédication, c'est-à-dire quand on prêche, comme ce matin, c'est en grande partie une œuvre cachée du cœur. Quand je tends la pelouse, je peux regarder derrière moi et je vois ce que j'ai fait. Je vois, ah là j'ai coupé, là j'ai pas coupé. Mais je prêche un message, je regarde derrière moi et je vois rien. C'est une œuvre cachée dans le cœur de l'homme. Mais Paul savait que un jour ce serait vraiment une cause de joie et d'allégresse. Et la plus grande joie pour lui, un sous-berger, si vous voulez, était de voir le troupeau confié à ses soins fidèles jusqu'au bout, persévérant dans la foi. Jean va dire plus tard, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Sa plus grande joie. Et le fait que Paul peut utiliser ceci comme un argument pour leur sanctification, il dit, mais rendez-moi heureux. Ça démontre la grande affection qui existait entre Paul et ses églises. Voulez-vous me rendre vraiment heureux? Arrêtez de vous plaindre. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Brillez. Portez. Et il faut comprendre que cette joie n'est pas égocentrique. Moi, je veux être content au ciel. Donc, faites ceci, allez. Non, c'est pas de tout ça. Paul n'utilisait pas les Philippiens pour son propre avancement. Au contraire, sa joie était liée à leur succès. Si vous pensez, si vous êtes enfant, à votre relation en tant qu'enfant à vos parents, ou si vous êtes parent, peut-être dans les deux sens, les parents se réjouissent à l'obtention d'un diplôme ou d'un concours de leur enfant. Leur joie n'est pas auto-centrée, hein, n'est-ce pas? Ah voilà, il a eu son bac, regardez ce que nous avons fait. Hein, nous l'avons nourri, nous l'avons vêtu, nous l'avons pris soin de lui tous ces années. Regardez ce que nous avons fait, nous avons maintenant un fils qui a son bac. C'est pas ça de tout. Mais pourtant, il y a quand même une joie, une allégresse, sachant que leur travail pendant ces longues années n'était pas en vain. Et que leur fils, leur fille, contre toute attente des fois, hein, a bien réussi, a pu obtenir ce diplôme où suit le Seigneur. Et voici la joie dont parle Paul. Il dit, en tant que votre pasteur, j'ai investi ma vie en vous. Je vous aime. Je veux arriver à la grande remise de diplôme, si vous voulez, en sachant que tout le travail que j'ai investi en vous ne sera pas en vain pour vous. Pour moi, oui, non. Ça ne peut pas être en vain, parce que Dieu récompense l'œuvre par les résultats. Mais je peux m'investir dans une personne pendant des années et trouver qu'à la fin, c'est en vain pour l'autre personne. Son intérêt personnel dans leur progrès chrétien était si grand qu'il était même disposé à souffrir lui-même pour eux. Remarquez, regardez le verset 17. Et vous verrez qu'il n'est pas orgueilleux. Il dit, et même si je sers de libation, c'est-à-dire de sacrifice, si je meurs pour le sacrifice et pour le service de votre foi, ben je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous voyez, il est prêt à souffrir, à se donner en sacrifice pour leur bien, pour leur progrès spirituel. Et peut-être, il y en a certainement ici, qui ont eu l'occasion d'investir vos vies dans le progrès spirituel de quelqu'un d'autre. Hein, ce qui est commandé d'ailleurs dans la Bible, de l'homme envers sa femme, des parents envers leurs enfants, mais ça doit s'étendre au-delà de cela. Et il y a ici que vous pouvez penser à des personnes avec qui vous avez travaillé longuement, vous avez mis beaucoup de peine, beaucoup d'heures même, à discuter, parler, les encourager, et il y a une joie en offrant votre vie comme une libation pour la foi de l'autre. Mais parfois, vous demandez si tout cela n'est qu'une perte, hein, que dans la vie de l'autre, si ça va vraiment mener à quelque chose pour l'autre, ou si pour l'autre, ça va devenir un poids, un jugement plus grand, au lieu d'une bénédiction qui leur apporte la vie. Et juste pour l'appliquer dans l'autre sens, il y a des personnes ici aussi, parmi les mêmes, qui ont été les bénéficiaires de beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Certains d'entre vous sont des enfants de ceux qui ont investi dans votre vie. Certains d'entre vous ont été contactés régulièrement par quelqu'un dans le passé qui vous encourageait, qui vous invitait à l'église, qui vous encouragez dans les choses de Dieu. Certains de vous pensez à quelqu'un peut-être qui est loin ou qui est maintenant avec le Seigneur même, mais qui a investi en vous. L'idée ici, ne méprisez pas leur amour. Ne méprisez pas cette œuvre qu'ils se sont donnée au Seigneur et à vous. Ne tournez pas le dos à ce qu'ils ont fait. Ce sont les vrais amis. Ne soyez pas comme le fils prodigue qui quitte son père. Il tourne le dos à son père pour trouver des amis qui sont, en fin de compte, pas des vrais amis. Ne faites pas ceci. Connaissez qui sont vos vrais amis, qui vont vraiment à cœur votre bien et qui ont lié leur propre joie à votre progression chrétienne. Un parent ne peut être content, un parent chrétien, si ses enfants, que si ses enfants progressent dans le Seigneur. Donc, deux bonnes raisons pour s'arrêter de se plaindre. Par amour pour le monde perdu autour de nous, et par amour pour le bien de ceux qui ont investi dans notre vie, que ce soit nos pasteurs, nos parents, vos mentors spirituels, parce qu'il va y avoir un grand jour de réjouissance. Mais avant que cela arrive, il faut non seulement ajouter l'œuvre du pasteur ou de celui qui travaille dans votre vie, mais il faut une participation de votre part aussi. En priant que le Seigneur nous aide à obéir ce texte et à vivre sans hésitation, sans murmure, la vie qu'il nous donne.